Bonjour à tous les auditeurs francophones et francophiles de CILS FM 107,9. Bon lundi, bienvenue dans le débrief. Il est 16h, on a actuellement 13 degrés à Victoria. La parole est à Denis Lépine dans quelques instants. Il va nous livrer ses deux bulletins quotidiens d'information. Je vous retrouve dans 4 minutes pour la météo détaillée. Ce sera suivi du Radio-Journal des Nations Unies et d'autres infos provinciales notamment. Dans cette édition, on accorde une attention particulière à l'accord de libre-échange Canada-Europe, le CETA, comme on l'appelle par son acronyme anglophone. C'est un accord qui ne sera vraisemblablement pas signé jeudi 27 octobre, comme c'était prévu à l'origine. On va tenter de faire la lumière là-dessus, j'aurai quelques nouvelles pour vous à ce sujet. J'aurai aussi le plaisir de m'entretenir avec Lisa Auquier, que les auditeurs de CILS FM connaissent bien par le biais de son émission estivale Vic et Versa. Lisa est de retour en Belgique depuis quelques semaines. Nous l'avons rejointe à Bruxelles, là où se joue justement l'avenir de cet accord de libre-échange Canada-Europe. Restez à l'écoute, ce sera diffusé vers 16h40. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, mesdames, messieurs. David Johnston se rendra au Moyen-Orient d'ici quelques jours. Plus précisément, le gouverneur général du Canada sera dans ce coin du globe du 29 octobre au 6 novembre. Il effectuera des visites d'État au royaume hachémite de Jordanie du 29 octobre au 1er novembre et dans l'État d'Israël du 1er au 3 novembre. Il visitera également la Cisjordanie les 4 et 5 novembre. Le gouverneur général sera accompagné de son épouse. Des arrêts au mur des Lamentations à Jérusalem et à la coupole du Rocher également à Jérusalem sont à l'agenda. Publication du rapport sur l'état de la santé publique du Canada. Le document met l'accent sur la violence familiale au Canada. Le docteur Gregory Taylor a déclaré que la violence familiale présente plusieurs formes, soit la maltraitance physique, les abus sexuels, émotionnels et financiers, de même que la négligence. Le rapport révèle qu'au Canada, plus de 230 Canadiennes et Canadiens, dont 8 personnes âgées, sont déclarées victimes de violences familiales chaque jour. Le document nous apprend aussi que tous les 4 jours, une femme est tuée par un membre de sa famille. Les syndicats des métiers de la construction du Canada ont réagi suite à l'adoption par la Chambre des communes du projet de loi C4. Les syndicats se sont dit heureux de cette annonce. Bob Blakely, chef de l'exploitation des syndicats, a noté que ce projet de loi démontre que le gouvernement Trudeau comprend bien l'importance du rôle joué par les syndicats dans la main-d'œuvre de la classe moyenne au Canada. UNICEF Canada annonce que l'organisme a réussi à atteindre Al-Oud, une ville située au sud de Mossoul qui a été reprise par les forces de sécurité irakiennes. UNICEF a confirmé que de l'eau potable a été remise à plusieurs des milliers de familles qui se trouvent prises au centre de ce conflit. Peter Hawkins, représentant national de l'UNICEF en Irak, a dit que les plus récents travaux d'UNICEF ont permis d'assurer la survie de 3000 enfants et de leurs familles. Cet officiel, Stephen Blaney, se lance dans la course à la succession de Stephen Harper, celui qui a dirigé notamment dans le passé les ministères des anciens combattants et de la sécurité publique et de la protection civile, avait déposé des documents de candidature la semaine dernière. Il a confirmé qu'il se lançait dans la course lors du brunch annuel de l'association conservatrice de sa circonscription de Bellechasse-les-Atchemins-Lévis près de Québec. Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire 2016 aujourd'hui à Montréal, Jane Philpott, la ministre fédérale de la Santé, est sur place. Elle doit annoncer des mesures que le gouvernement du Canada prendra pour aider les Canadiennes et Canadiens à faire des choix alimentaires sains. Elle doit aussi présenter sa vision pour un Canada en santé. Le congrès se tient cette année au Palais des congrès de Montréal. La première phase du programme de consultation du conseil d'examen du prix des médicaments brevetés prend fin aujourd'hui. Les commentaires du public seront d'ailleurs acceptés jusqu'en fin de journée. Le Conseil précise que le programme finira par changer la façon dont le gouvernement fédéral déterminera si le prix des médicaments brevetés est trop élevé au pays. Justin Trudeau a souligné en fin de semaine le deuxième anniversaire de l'attaque au Cénétaph et sur la colline parlementaire à Ottawa. Il a déclaré que cette attaque méprisable au cœur même de notre démocratie avait pour but de susciter la peur et diviser les Canadiens. Justin Trudeau a souligné qu'à la suite de l'assaut, les parlementaires et les Canadiens se sont ralliés pour condamner le terrorisme. Medtronic Canada annonce que son système de stimulation cardiaque Micra a été homologué par Santé Canada. Micra est le plus petit stimulateur cardiaque au monde. Il est le premier produit avec technologie de stimulation miniaturisée à être homologué par Santé Canada. Il est suffisamment petit pour être implanté directement dans le cœur à l'aide d'un cathéter sans sonde cardiaque. Le système est de la taille d'une grosse gélule de vitamine. Au sport au hockey, bien, Ligue nationale, match présenté à l'extérieur à Winnipeg hier et revers des Jets aux mains des Oilers d'Edmonton 3-0. Ailleurs, mentionnons aussi la victoire d'Anaheim 4-2 contre Vancouver. Ce soir, deux rencontres dans le circuit Batman. Philadelphie sera à Montréal et Calgary à Chicago. Baseball majeur, eh bien, on rappelle que la Série mondiale débute demain à Chicago entre les Cubs et les Indians de Cleveland. NFL Weekend numéro 7, les Vikings du Minnesota ont subi un premier revers en 2016, défaite de 21-10 contre Philadelphie. Notons également des victoires pour la Nouvelle-Angleterre, Oakland, Cincinnati et San Diego. À l'inverse, Buffalo, San Francisco et Cleveland ont perdu. Et dans un match présenté à Londres, les Giants de New York ont vaincu les Rams de Los Angeles 17-10. Ce soir, au match du lundi soir, Houston sera à Denver. Et course automobile, Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis pour la quatrième fois au cours des cinq dernières années.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous en info quotidien du lundi au jeudi à 16h à l'antenne de CILS FM 107,9. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h. On jette un petit coup d'œil à la météo. On a 12 degrés à présent au centre-ville de Victoria. C'est 14 degrés dans le port et 13 degrés du côté de l'aéroport. Ça demeure nuageux et maussade en soirée. On aura 13 degrés au cours des prochaines heures avec une probabilité d'averse de 60%. Et le scénario se répète demain mardi, 13 degrés, 60% de possibilité d'averse. Et la pluie se poursuit ainsi au cours de la semaine. Le dégagement est prévu pour vendredi 28 octobre. Et si on jette un petit coup d'œil au radar actuellement, on a des nuages sur Victoria. Ce sont des nuages de pluie. La pluie devrait cesser selon l'animation, la projection animée du radar vers les 19h-19h30. Donc voilà, on passe maintenant aux nouvelles des Nations Unies et on se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles provinciales. À tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies, avec en titre « Appel de l'UNICEF alors que le démantèlement de la jungle de Calais a débuté, hausse importante de la production d'opium en Afghanistan, inquiétude de l'Organisation météorologique mondiale face au niveau record d'émissions de CO2 et en dossier, les parlementaires se mobilisent pour réagir aux violations des droits de l'homme ». En France, les opérations de démantèlement de la jungle de Calais ont débuté ce lundi. Ce camp informel abritait dernièrement environ 9000 réfugiés et migrants qui cherchaient pour majorité à rejoindre le Royaume-Uni. Parmi eux se trouvaient près de 1300 enfants non accompagnés qui étaient exposés à des abus et des violences de toutes sortes dans le camp. Pour UNICEF France, les autorités doivent prendre en compte la situation particulière de ces mineurs au cours des opérations de démantèlement. Les explications de Juliette Chevalier, porte-parole d'UNICEF France.
Ce que l'UNICEF France a demandé, c'est qu'il y ait un accompagnement au moment du démantèlement, qu'évidemment ces jeunes et ces enfants soient séparés des adultes dans des lieux spécifiques. La deuxième condition que l'on a posée, c'est de travailler à la réunification familiale au sens large. Et puis, surtout, on a insisté auprès du gouvernement pour que le démantèlement ne soit pas un nouvel épisode traumatique. On est également en vigilance sur l'immédiate suite, c'est-à-dire qu'on insiste sur le fait de créer un vrai lieu d'accueil et de répit pour les prochaines arrivées de réfugiés en tout cas de mineurs, qui ne vont pas manquer de continuer leur route, et pour ne pas reproduire les mêmes situations de mise en danger, de manière à pouvoir avoir sur le territoire français différents lieux de répit, à la fois dans les Alpes-Maritimes, en Île-de-France et dans le nord de la France, incluant le littoral de la Manche, etc.
Une réunion a d'ailleurs été organisée ce matin au siège pour réfléchir aux stratégies efficaces pour faire face aux déplacements internes. Cet événement a notamment été marqué par l'intervention du rapporteur spécial de l'ONU sur les droits des personnes déplacées, qui apprenait l'adoption d'une approche pragmatique visant à intégrer la dimension humanitaire dans les projets de développement. On écoute Chaloka Beyani.
Dans toute approche fondée sur le développement, il y a des besoins humanitaires aigus qui ne peuvent pas être ignorés. Si vous les ignorez, alors vous avez des maladies, vous avez le choléra, vous avez toutes sortes d'épidémies d'origine hydrique, voire de maladies contagieuses qui doivent être traitées. On l'a vu en Haïti, où malgré la prolongation des déplacements, des besoins humanitaires aigus doivent être résolus. Et cela a été la même chose en Afghanistan pour des personnes déplacées de façon durable. Il y avait certains besoins humanitaires clairs, des soins de santé reproductifs pour les femmes par exemple, des besoins humanitaires que l'on ne peut pas mettre de côté. 56% des personnes déplacées sont des enfants en Afghanistan. Ils ne vont pas à l'école. Donc nous parlons d'une génération perdue dans les années à venir. Les personnes déplacées ont besoin d'abri, tout comme chacun d'entre nous. Elles ont perdu leur foyer, leur maison, ce qui constitue la première des caractéristiques d'une situation de déplacement.
La production d'opium en Afghanistan a augmenté de 43% en un an pour atteindre 4800 tonnes cette année. Un chiffre qui préoccupe l'Office de l'ONU contre la drogue et le crime, qui s'inquiète de ce revers dans les efforts de lutte contre les drogues illicites. La dernière édition de l'enquête sur la production d'opium en Afghanistan précise qu'un rendement plus élevé par hectare est le facteur le plus important de cette hausse, qui a été particulièrement marquée dans l'ouest et le sud du pays, qui produisent déjà 84% du pavot à opium en Afghanistan. Le point avec Florence Westgaard.
Lors d'une conférence de presse donnée à Kaboul, le directeur exécutif de l'ONUDC a averti que les résultats recensés dans l'étude illustrent l'ampleur de la menace à laquelle font face l'Afghanistan et la communauté internationale. Yuri Fedotov a notamment indiqué que les problèmes liés à la culture du pavot ont des répercussions sur la santé et la sécurité dans les pays voisins de l'Afghanistan, en Asie occidentale et centrale et le long des principales routes de la drogue dans le monde. Yuri Fedotov a d'ailleurs exhorté la communauté internationale à fournir les ressources nécessaires pour construire une plus grande coopération régionale. Mais pour le chef de l'ONUDC, ces problèmes font avant tout partie d'un problème de développement beaucoup plus large en Afghanistan, où l'argent de la drogue alimente à la fois le terrorisme et la corruption. Alors que l'Afghanistan connaît des niveaux de toxicomanie dévastateurs, Yuri Fedotov a appelé à renforcer l'engagement politique non seulement pour combattre les drogues illicites, mais aussi pour mettre fin à la corruption endémique et à la prolifération du blanchiment d'argent et d'autres défis financiers.
Les émissions de gaz à effet de serre dans le monde ont franchi un record en 2015. En effet, pour la première fois, une moyenne mondiale de 400 parties par million, ou ppm, a été constatée sur toute une année. L'Organisation météorologique mondiale prévient que ces niveaux de CO2 devraient rester au-dessus de ce taux en 2016, et ce, pour de nombreuses générations encore. Ger Braten, responsable scientifique à l'OMM, revient sur les causes du phénomène.
On s'attendait à ce qu'un jour ou l'autre, on va atteindre les 400 ppm, mais ça montre aussi que ça devient de plus en plus grave en fait quand la concentration de CO2 augmente dans l'atmosphère, mais que cette année n'est pas tout à fait différente que les autres années, sauf qu'en fait on a eu récemment ce phénomène de El Niño qui a commencé en 2015 et qui a duré aussi pour une bonne partie de 2016. Et ce phénomène de El Niño a une tendance à augmenter la quantité de CO2 qui reste dans l'atmosphère. La plus grande cause, c'est les émissions de CO2 par nous, les hommes. Quand on brûle le charbon, quand on brûle le pétrole, quand on brûle le gaz naturel, ce qui échappe, c'est le CO2. Quand on brûle les hydrocarbures, là, ce qui échappe, c'est le CO2. Donc ça, c'est la plus grande contribution, c'est les émissions dues à ces carburants.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
L'UIP, l'Union interparlementaire, a entamé ce lundi à Genève les travaux de sa 135e Assemblée. Cette conférence, qui réunit plus de 700 parlementaires, examinera cette semaine la capacité de réaction rapide des parlementaires et le rôle des parlements lorsque les violations des droits de l'homme présagent un conflit. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a tendu son micro au secrétaire général de l'UIP, Martin Chungang.
Nous nous disons que les parlementaires sont les représentants du peuple. Ils sont ceux qui sont chargés de protéger et de défendre les droits de l'homme des populations. Ils sont donc les gardiens des droits de l'homme. Et puis, nous nous disons que pour qu'ils jouent ce rôle de gardien des droits de l'homme, il faut que leurs propres droits soient respectés. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un comité qui s'occupe des cas des abus et de violations des droits de l'homme des parlementaires. Et c'est ce comité-là qui fête ses 40 ans cette année.
Le président guinéen Alpha Condé disait, quand il était parlementaire, c'est l'UIP qui lui a sauvé la vie en sensibilisant sur son sort quand il était emprisonné. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du nombre de parlementaires qui risquent leur vie pour jouer leur rôle?
Il y a des parlementaires à travers le monde, nous avons une longue liste, et je ne cesse de le dire, le métier de parlementaire est parmi les plus dangereux du monde entier. Donc les parlementaires, de par leur fonction, étant donné qu'ils doivent s'exprimer de façon libre, peuvent parfois se porter en porte-à-faux contre les avis des gouvernants et qu'ils fassent l'objet de certaines mesures arbitraires. Donc c'est un métier très dangereux. Vous avez parlé du président Alpha Condé. Effectivement, quand il a été libéré, l'un de ses premiers actes, c'était de venir à Genève, remercier l'Union interparlementaire. Mais il y a d'autres parlementaires qui sont emprisonnés. On vient de parler du cas du Venezuela. Au Cambodge, en Malaisie, l'ancien premier ministre, vice-premier ministre malaisien est en prison pour des raisons, disons, arbitraires. Donc, c'est un métier très dangereux.
Et ces 450 cas qu'on mentionne ici dans le monde qui sont examinés par le comité des droits de l'homme, de quoi s'agit-il? C'est des parlementaires emprisonnés, des parlementaires qui ont des soucis?
Oui, c'est des parlementaires qui sont d'abord emprisonnés et ce sont des parlementaires qui ont été assassinés. Et il y a des cas, par exemple en Mongolie, où il y a eu un parlementaire très célèbre qui a été assassiné. Ce sont des parlementaires dont les droits ont été retirés. Par exemple, ils ont été expulsés du Parlement, ils ont été déchus de leur mandat parlementaire pour avoir exprimé des points de vue qui n'étaient pas du goût des autorités. Donc il y a toutes sortes de mesures arbitraires qui sont prises à l'encontre des parlementaires.
Et le comité a examiné 2500 cas dans 109 pays depuis 1976. Aujourd'hui, qui sont ces parlementaires en danger dans des pays comme le Venezuela?
Au Venezuela, il y en a qui ont été emprisonnés suite à des manifestations qui ont eu lieu en 2014. On a constaté des dégâts en vie humaine. Mais également, il y a des parlementaires, une douzaine, qui ont été emprisonnés par le régime Chavez pour avoir exprimé des points de vue divergents. Donc, ils sont toujours en prison. Et lors de ma mission au Venezuela, j'ai engagé le président Maduro à libérer ces personnes comme mesure de renforcement de la confiance qui doit exister entre les acteurs de la classe politique.
Et quand comptez-vous envoyer une mission au Venezuela?
Nous sommes en train d'étudier les modalités avec d'abord le comité et ensuite avec la délégation vénézuélienne, parce que cela dépendra de la disponibilité de chacun. On veut organiser cela le plus rapidement possible, étant donné le caractère urgent de la situation au Venezuela.
La situation dans le monde aujourd'hui est dominée par la Syrie et le sort des populations d'Alep. Est-ce que cette situation vous préoccupe, vous, au niveau de l'UIP?
La Syrie et la crise que ce pays subit depuis 5 ans maintenant est à l'ordre du jour de l'Union depuis le début de la crise. Et à l'occasion de la présente Assemblée, il y a des propositions qui ont été faite par au moins 4 délégations pour que la question qui prévoit Alep figure l'ordre du jour de l'Assemblée.
Et c'est avec Martin Chungang que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Alexis Gagnon au micro, bienvenue dans Le Débrief. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 25 octobre, bienvenue dans l'émission. L'info se poursuit, on va passer au bloc des nouvelles provinciales. On commence par une nouvelle qui est signalée par plusieurs médias. Je vous rapporte le texte publié sur le portail de Radio-Canada. Ça concerne le pipeline ou l'oléoduc, si vous préférez, Trans Mountain de la compagnie Trans-Canada. Il y a eu une manifestation importante du côté de la colline parlementaire à Ottawa aujourd'hui. Désobéissance civile et arrestation. C'est d'ailleurs le titre de cet article. Manifestation étudiante et désobéissance civile contre le projet d'oléoduc Trans Mountain. Vous le savez, le projet d'oléoduc Trans Mountain nous concerne au premier chef puisqu'il traverserait l'Alberta jusqu'à Burnaby en Colombie-Britannique pour un accès au littoral et cette expansion de la capacité du pipeline existant provoquerait une augmentation très importante de la circulation des pétroliers et accroîtrait bien sûr le risque de déversement sur l'itinéraire du pipeline. C'est un projet qui n'a pas encore l'approbation du gouvernement. L'Office national de l'énergie, vous le savez, a donné son accord en mai. Donc, il a recommandé au gouvernement Trudeau ce projet d'oléoduc. Cependant, la réaction de la société civile a été très forte. Un comité consultatif itinérant a été mis sur pied par la suite et la population a pu s'exprimer. Un rapport est d'ailleurs attendu au mois de novembre. Bref, ce pipeline n'existe pas encore, c'est-à-dire que l'expansion n'a pas encore reçu son autorisation et des étudiants aujourd'hui ont manifesté à Ottawa, des étudiantes venues de partout au pays, comme le mentionne cet article de Radio-Canada. Ils ont manifesté aujourd'hui, lundi, à Ottawa pour dénoncer le projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan. C'est un pipeline, on le rappelle, qui tracerait son itinéraire entre Edmonton et Burnaby. Donc, c'est un pipeline existant depuis les années 50. La compagnie veut en tripler la capacité. Alors, près de 150 manifestants ont marché de l'Université d'Ottawa jusqu'au Parlement canadien, nous rapporte cet article de Radio-Canada, avant de se livrer à des actes de désobéissance civile. Plusieurs étudiants étaient munis de pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire « No way, we're not gonna pass it », entre autres slogans. Selon les organisateurs, il est urgent d'agir puisque le gouvernement fédéral devra prendre une décision dans ce dossier d'ici la fin de l'année 2016. Une trentaine de manifestants ont voulu défier les autorités et ont enjambé les barrières de sécurité placées à l'entrée du Parlement. Les organisateurs de la manifestation avaient annoncé des actes de désobéissance civile. Les arrestations se sont déroulées dans le calme, rapporte Radio-Canada. Gabriel Dastou, porte-parole pour l'organisme Climate 101, a souligné que les opposants au projet Trans Mountain veulent que leur voix soit entendue. Ils estiment que le premier ministre Justin Trudeau devrait écouter les scientifiques qui s'inquiètent des changements climatiques et prendre en considération les droits des Premières Nations. On est prêt à se faire arrêter pour stopper ce projet, a déclaré Gabriel Dastou de l'organisme Climate 101. Aujourd'hui, c'est le début, mais si le premier ministre n'est pas prêt à nous entendre, on va continuer d'être là dans les prochaines semaines, a-t-il déclaré. Avec ces gestes d'éclat, conclut cet article de Radio-Canada, les manifestants veulent prouver au gouvernement Trudeau qu'ils sont déterminés et que c'est leur génération qui sera aux prises avec la lutte au changement climatique. On reste dans le dossier de l'environnement. Je vous parle du naufrage de ce remorqueur la compagnie Kirby qui a été déploré dans le nord de la Colombie-Britannique, sur le littoral nord, près de Bella Bella. Le barrage de retenue de pétrole a été réparé autour du lieu de naufrage de ce bateau remorqueur. Il s'était rompu vendredi, il y a quelques jours, en raison de conditions météorologiques très difficiles, ce qui avait laissé le pétrole s'échapper encore plus dans l'océan. Ce barrage avait été installé d'urgence à la suite du naufrage du remorqueur. On se souviendra que ce remorqueur contenait 220 000 litres de diesel à son bord lorsqu'il s'est échoué. Et selon la Première Nation Aitchouk, moins de la moitié a pu être récupérée, donc moins de la moitié de ce qui a été déversé a pu être récupéré. D'après Mike Reed, responsable de la gestion des eaux de la Première Nation Aitsuk, lors de la première semaine du déversement, les plus fortes marées du mois ont justement eu lieu. Il craint que le diesel ne soit répandu partout dans le passage Gale, une zone écologique très sensible et vitale pour de nombreuses espèces marines comme les oursins, les jeunes saumons, le hareng, les concombres de mer et la mousse de mer. Donc vous aurez de plus amples infos dans cet article justement publié lui aussi sur le portail de Radio-Canada du côté britanno-colombien dans la section Colombie-Britannique du portail de Radio-Canada. Le titre « Le barrage flottant est réparé près de Bella Bella ». Je vous mentionne maintenant un sujet qui revient fréquemment dans le débrief, la crise immobilière. On annonce sur le site de CBC, on annonce la venue d'un sommet sur le logement, l'accès au logement, le droit au logement. C'est Vancouver qui sera l'hôte de cette conférence au cours des prochains jours du 24 au 29 octobre. On attend 500 experts qui vont discuter de l'accès au logement, de la difficulté croissante pour les populations, pour les citoyens à se loger. Les coûts du logement étant en hausse permanente dans les grandes villes d'Amérique du Nord. Et s'il y a bien un endroit où il est pertinent de parler d'accès au logement et de droit au logement, c'est bien Vancouver, où le coût des loyers a atteint des niveaux invraisemblables. Donc, cette conférence, nous rapporte CBC aujourd'hui, aura lieu à Vancouver au cours des prochains jours. Le titre de la conférence, Address Housing Conference. Et il sera question de Vancouver, bien sûr, mais aussi de New York, Londres, San Francisco et Sydney. Autant de villes qui ont connu des problèmes quant à l'accès au loyer, l'accès au logement. Voilà, je clôt cette portion provinciale de l'émission avec une dépêche qui paraît sur le site Victoria News ou Vic News comme on l'appelle fréquemment. Vic News qui nous apprend que le premier d'une série de capteurs très spécialisés qui sont censés fournir un avertissement en cas de séisme. Le premier de cette série de capteurs a été déposé au fond du détroit Juan de Fuca il y a quelques jours à une profondeur de 850 mètres. Et ces capteurs sont très sensibles, rapporte cet article, et peuvent permettre donc d'apprendre l'imminence d'un séisme. Alors, ils pourraient se révéler effectivement très utiles dans l'avenir. Vous trouverez cet article sur le portail vicnews.com. Le titre, Quake Early Warning Systems Slowly Taking Shape. Voilà, on termine donc ce bloc provincial. On se tourne en musique vers une pièce de la formation Limoilou. C'est une pièce intitulée Acide. On se retrouve dans quelques minutes.
Les rôles ont changé, tout est acide. Les corps en suspens, la morsure à blanc. Le cœur est tombé, j'hallucine. Perdu le raccourci qui mène à la guerre, de ma tête à l'agonie qui te voit en traître. Entre en moi comme une arme au cœur de nos frères. Entre en roi comme si tu voulais me faire taire. Le cœur est tombé, je suis lucide. Les rôles ont changé, tout est assez. Les corps en suspens, la mort sur Ablin. Le cœur est tombé, j'ai laissé. Le cœur est tombé, j'ai laissé.
Alors j'ai erré en vous disant que la formation s'appelait Limoilou. En fait, c'est une pièce signée par l'artiste Safia Nolin. Limoilou, c'est le titre de l'album. Voilà, donc on va bientôt passer à la nouvelle du jour. Vous êtes dans le débrief. L'information se poursuit. Il est 16h29. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 25 octobre, bienvenue dans l'émission. C'est le moment passé aux nouvelles du jour. Je vous le disais en intro. On va parler de l'accord de libre-échange Canada-Europe qui n'a pas pu aboutir. La signature n'a pas pu être obtenue. Elle était prévue pour le jeudi 27 octobre, mais les chances que ce traité entre l'Europe, 500 millions d'habitants, et le Canada, une trentaine de millions d'habitants, il y a beaucoup de chances pour que cet accord soit condamné. Enfin, pour le moment du moins. On en parle dans l'émission et on aura bien sûr Lisa Hauquier à Bruxelles un petit peu plus tard, dans une douzaine de minutes, pour nous donner le topo. Alors, je vous parle de cet article paru dans la presse, du côté de la presse européenne. Accord de libre-échange Canada-Europe, CETA. La Belgique n'est pas en état de signer, affirme le Premier ministre. Prévu ce jeudi 27 octobre en présence du Premier ministre canadien Justin Trudeau, la signature de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, dit CETA, est annulée. La Wallonie n'est toujours pas d'accord avec le texte. Dimanche 23 octobre, l'Union européenne avait posé un ultimatum à la Belgique. Le pays avait jusqu'à lundi soir, donc ce soir, pour donner sa réponse. Le délai ne sera pas tenu. Nous ne sommes pas en état de signer le CETA, a reconnu Charles Michel, Premier ministre belge, à la sortie d'une réunion du comité de concertation rassemblant toutes les entités fédérées de Belgique et le gouvernement fédéral. On nous a demandé de donner une réponse claire aujourd'hui. La réponse claire à ce stade, c'est non, a-t-il déclaré. Ce lundi 24 octobre, aujourd'hui, le président du Parlement wallon, André Antoine, affirmait déjà qu'il ne serait pas possible de répondre dans le temps imparti. Le président du Parlement de Wallonie demandait plus de temps pour réfléchir à la question, sans préciser s'il s'agit de jours, de semaines ou de mois. Il ne sera pas possible de respecter l'ultimatum. L'ultimatum a déclaré André Antoine au micro de RTL, qui est une radio belge RTL, qui est une radio belge. On vit comme ça maintenant avec des menaces à répétition entre démocrates. Ça n'est pas acceptable, a-t-il dit en référence à cet ultimatum qui leur avait été servi. Donc, du côté du journal Le Point, on nous apprend que le Canada garde espoir d'un accord. C'est ce qu'affirme également le journal La Presse du côté de Montréal. Il y aurait encore un espoir de signature pour le 27 octobre, malgré l'opposition ferme de la Wallonie. Donc, la Wallonie qui est cette région francophone de la Belgique, qui n'a pas donné son accord. L'accord était nécessaire pour que la signature puisse avoir lieu. La situation s'enlise, mais le Canada garde espoir de signer jeudi à Bruxelles l'accord accord de libre-échange avec l'Union européenne, malgré l'actuel refus de la Wallonie, a indiqué lundi la ministre canadienne du commerce international, Chrystia Freeland. De retour à Ottawa, après avoir constaté vendredi l'échec des discussions avec la région belge francophone, la ministre Freeland a tenu un bref point de presse au Parlement. « J'ai espoir », a-t-elle dit, « la balle est maintenant dans le camp de l'Europe, le CETA n'est pas mort et nous travaillons d'arrache-pied ». À lever le veto wallon, a-t-elle souligné, adressant ses vœux de succès aux négociateurs européens. Alors voilà, donc cet accord est paralysé pour le moment. On va essayer d'en apprendre davantage plus tard avec Lisa Hoquier. Je vais vous convier à un petit peu de musique. On fait une petite pause musicale. On revient avec la revue de presse des éditoriaux. J'en ai retrouvé quelques-uns qui concernent justement cet accord de libre-échange. On va parcourir les premières lignes de ces éditoriaux et on va se rendre ensuite à la conversation avec Lisa un petit peu plus tard. À tout de suite. Je vous parlais du président du Parlement de Wallonie, André Antoine. La Wallonie fait obstacle à la signature du CETA. Il était l'invité de BEL RTL cette semaine, en début de semaine, donc aujourd'hui. Il a donné en quelques points les raisons de l'opposition de la Wallonie au texte du CETA. Je vous livre quelques passages de ce texte, de sa position. Le premier point se situe sur la forme, a-t-il dit. Les avancées obtenues par la Wallonie ces derniers jours, elles doivent non pas se retrouver dans des documents annexes à valeur juridique discutable comme aujourd'hui, mais être écrites noir sur blanc dans le texte du traité. Oui, c'est effectivement un point qu'ont soulevé les parlementaires wallons. Le traité est éparpillé sur des annexes, des courriels et des textes qui sont disséminés, il n'y a pas de coordination et les textes ne sont pas rassemblés pour former un tout cohérent. Donc c'est la critique que les parlementaires wallons formulent. Deuxièmement, un déséquilibre dans les matières agricoles en faveur du Canada. Donc il y aurait dans le créneau agricole des points qui sont, selon les parlementaires belges, à l'avantage du Canada. Et c'est ce qui a causé le blocage. Numéro 3, le système d'arbitrage doit directement devenir une cour multilatérale des investissements. Alors le système d'arbitrage prévu par ce traité est assez opaque en effet. On va d'ailleurs en parler avec Lisa dans quelques minutes. Le troisième point donc problématique abordé par le président du Parlement wallon, c'est cette fameuse cour d'arbitrage qui permettrait aux multinationales d'engager des poursuites judiciaires contre les États qui les pénaliserait financièrement en changeant leur réglementation, comme cela s'est vu dans d'autres traités commerciaux, notamment entre les États-Unis et les pays d'Amérique centrale. Donc la question du règlement des litiges et du pouvoir qu'auraient les multinationales de poursuivre les États en marge du système judiciaire et plutôt à travers des tribunaux privés très opaques, Voilà ce que contestent et déplorent les parlementaires belges. Numéro 4, autre point, donc numéro 4 qui suscite leur opposition, les produits d'appellation d'origine. Alors, ils sont sensibles sur ce sujet. Ils trouvent que le Canada ne reconnaît pas suffisamment les produits d'appellation d'origine. On peut penser au vin, au chocolat et à d'autres produits fins, entre autres, mais pas seulement. Alors voilà, ce sont quelques-uns des points qui sont les points d'achoppement, si vous voulez, donc pour les parlementaires wallons qui s'opposent au traité de libre-échange Canada-Europe actuellement et qui l'ont condamné finalement puisque la signature ne pourra pas avoir lieu comme prévu le jeudi 27 octobre. Alors, j'aurais pu vous citer aussi cet article paru sur le portail regard.fr. C'est un article critique sur ce genre de traité de libre-échange. Le titre de l'article sur le portail regard.fr est très éloquent. CETA, le débat démocratique est fatal au traité de libre-échange. Et bien sûr, on rappelle dans cet article que ce traité de libre-échange a été négocié en secret pendant de nombreuses années et qu'il a été révélé in extremis aux populations juste avant la signature, donc quelques temps avant la signature, ce qui n'est pas très fair play. Et aussitôt que le contenu du traité a été connu, justement, le débat démocratique, comme l'indique le titre de l'article, a été fatal, puisque la transparence a permis un dialogue, des critiques, et permis de soulever certaines aberrations qui sont dans le traité du CETA, donc l'accord de libre-échange Canada-Europe. Donc je vous recommande cet article paru sur le portail regard.fr. Regard est écrit au pluriel avec un S. On va se transporter à l'interview dans quelques instants. Je vous l'ai répété quelques fois dans l'émission. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Lisa Hauquier. Aujourd'hui, les auditeurs de CILS connaissent bien Lisa. Elle était derrière cette émission estivale Vic et Versa, qui était un magazine formidable sur la vie à Victoria. Lisa est de retour dans sa Belgique natale depuis quelques semaines. Nous l'avons rejointe à Bruxelles, là où se joue justement l'avenir de l'accord de libre-échange Canada-Europe. Donc, c'est très pratique d'avoir une correspondante à Bruxelles. On en a profité. Restez à l'écoute. Donc, cette interview avec Lisa va être diffusée dans quelques instants. Vous êtes à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. C'est le moment de passer à l'interview du jour. J'ai le plaisir de m'entretenir avec une ex-collègue, Lisa Hauquier, qui est l'animatrice de l'émission Vic et Versa, qui a occupé la grille des CILS durant les derniers mois d'été et qui est encore en rediffusion. Je vous encourage à écouter cette excellente émission. Bonjour Lisa.
Bonjour.
Alors, tu as retrouvé la Belgique ça n'a pas été long. On s'était promis qu'on se parlerait si la Belgique entrait dans l'actualité d'une manière ou d'une autre. Et ça s'est produit très vite puisque on a un accord entre l'Europe et le Canada, un accord de libre-échange qui aboutit au terme de longues négociations de plusieurs années. Cet accord s'appelle l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, tout simplement. Et son acronyme anglais, c'est le CETA. Alors, pourquoi est-ce que on se parle aujourd'hui? C'est parce que l'accord est bloqué. On attendait toutes les signatures et il y a une région de la Belgique, justement, qui fait un petit peu de résistance. Est-ce qu'on peut commencer par définir l'accord et expliquer ce qui se passe du côté de la Belgique?
Oui, bon, déjà, Là, je vais quand même préciser que moi, je ne suis pas une grande fervente du CETA. Donc voilà, je vais essayer de rester le plus objectif possible.
Bien sûr, moi non plus.
C'est mon point de vue. Donc comme tu l'as dit, le CETA, c'est un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui est assez controversé. Donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine qui a duré sur plusieurs années. Néanmoins, il est quand même resté assez secret du public, un peu comme le TTIP, qui concerne plutôt les investisseurs et les grandes entreprises. Et
oui.
C'est bien sûr pour supprimer un peu les barrières frontalières pour les objets et pour les investisseurs. Donc c'est quand même quelque chose qui est plus du secteur privé et non pas des citoyens. Et voilà, il y a un grand problème par rapport un peu à ce secret tenu du public. Et on dit que c'est un peu un traité protectionniste envers les entreprises.
Oui.
Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un nom de la Wallonie. Alors, en fait, le vote du CETA donc, pourrait être signé le jeudi 27 octobre, parce que c'était ça l'objectif, qu'il soit signé ce jeudi 27 octobre. Devait obtenir l'unanimité auprès des 27 de l'Union européenne.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas, il n'a pas le oui de la Belgique, parce que pour obtenir le oui à la Belgique, il faut aussi l'unanimité de la Flandre, de la Wallonie et de Bruxelles.
Mm-hmm.
Donc c'est là que ça coince. On a un non wallon qui bloque donc le oui belge, donc la Belgique dit non, et comme la Belgique fait partie des 27 de l'Union européenne, on ne peut pas obtenir l'unanimité pour la signature du 27 octobre. Donc, c'est là que ça coince.
Et pourquoi les parlementaires belges francophones, donc wallons, s'opposent-ils à la ratification du CETA?
Alors, il y a plusieurs raisons. C'est aussi un grand débat de notre côté. Aussi, on va dire que d'abord, c'est une menace un peu pour l'agriculture, pour tous les services publics, les politiques publiques favorables à la santé et à l'environnement. Donc, il faut quand même bien se dire que c'est un traité qui fait plus tout ce traité. On ne parle pas du réchauffement climatique, de tout le traité. Donc, c'est bien une preuve qu'il y aura... l'objectif, c'est d'avoir une homogénéisation des politiques entre le Canada et l'Union européenne. Mais cette homogénéisation se fera obligatoirement vers le bas, puisque c'est pour faciliter un peu les investisseurs et les échanges. Donc, c'est très étonnant qu'on verra un renforcement des politiques environnementales, par exemple. Donc ça, c'est une peur. C'est aussi une peur par rapport à la concurrence. Et aussi à la concurrence face à un marché international par rapport à un marché local. Donc, on se demande un peu quel est l'intérêt d'importer des pommes du Canada alors qu'on a des pommes en Belgique. Et aussi, le grand problème, c'est par rapport au lait. On a déjà de grands problèmes ici pour financer nos producteurs laitiers.
Oui.
Et je sais qu'au Canada, ça peut être un conflit aussi. Donc, voilà, c'est toute cette question par rapport à ça. Et surtout par rapport, c'est à l'arbitrage. Donc ce traité, ça offre la possibilité aux entreprises de faire un procès au gouvernement s'ils pensent qu'ils sont lésés. Donc on a déjà eu l'exemple en Australie avec les paquets de cigarettes où le gouvernement australien voulait annuler tout ce qui est packaging pour les paquets de cigarettes. Et on a fait un procès au gouvernement en disant que c'était à l'encontre des entreprises privées et ils ont gagné. Donc, il y a une peur par rapport à ça. Ici, il faut dire aussi que c'est la Wallonie qui dit non. Mais derrière la Wallonie, il n'y a pas que les Wallons. Donc, vous pouvez remarquer sur les réseaux sociaux, sur Internet... Et il y a aussi des manifestations qui se font. Il n'y a pas que des Wallons. Il y a beaucoup de citoyens d'autres pays de l'Union européenne qui soutiennent les Wallons.
Bien sûr.
Donc on a vu, par exemple, récemment, il y a eu une manifestation aux Pays-Bas. Il y en a eu aussi une en France. Il y en a eu aussi une en Allemagne. Et donc, oui, c'est la Wallonie. Heureusement, je ne suis pas objective, mais c'est la Wallonie qui bloque, mais derrière la Wallonie, ça ne représente pas que voilà, les 5% de la population de l'Union européenne, ça c'est faux. Il y a plus de gens qui veulent dire non à ce traité, mais pour l'instant, il n'y a que la Wallonie qui a gardé ce nom. Après, pourquoi ? Parce que ça, c'est aussi une question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays qui ont dit non, ou plusieurs parties de pays ? C'est parce qu'encore une fois, ce traité a été tenu secret oui. du public. Il y a quand même dans d'autres pays où vraiment on n'en a pas du tout discuté. Alors que si on en avait parlé avec la population et avec les citoyens, ben peut-être qu'il y aurait eu plus de noms qui se seraient affichés que ce qu'on a actuellement.
Voilà.
J'ai bien répondu à ta question.
Oui, mais en gros, tout à fait.
Les trois points, c'était voilà, une menace pour le marché local, c'est une menace pour tout ce qui est politique sociale et environnementale. Et alors, c'est par rapport au procès entreprise versus gouvernement. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose qu'à la limite, même les citoyens ne peuvent pas faire. Je veux dire, nous, en tant que citoyens, on ne peut pas attaquer les gouvernements, mais les entreprises le pourraient.
Oui.
Et c'est bien pour préciser que c'est un accord pour protectionniste envers les entreprises et non pas envers les citoyens. Et alors, je m'étais renseignée aussi, par rapport à ce nom, Wallonie, il y a quand même encore pas si longtemps, la Roumanie et la Bulgarie étaient aussi encore en nom. Ils ont fini par changer, ils ont aussi tenu longtemps pour ça, et eux, ils se battaient pour le visa pour leurs citoyens. Donc, les citoyens roumains et bulgares pour accéder sans avoir des visas. Mais donc voilà.
Oui, eh bien, tu mentionnes l'opposition des citoyens, des populations européennes, pas seulement celle des Wallons, et c'est très juste de le faire remarquer. Et faut dire aussi qu'il y a une opposition citoyenne très forte au Canada également. Ici, au débrief, on a lu au cours des dernières semaines des éditoriaux qui s'opposaient à la signature de cet accord, à peu près pour les mêmes raisons que tu as citées. Donc, il y a un déficit démocratique dans cet accord-là qui est patent. L'accord place le commerce au-dessus du climat et de l'environnement. L'environnement n'est mentionné nulle part. Et les normes communes qui sont décidées dans cet accord sont chapeautés par des tribunaux privés, comme tu le disais, donc des tribunaux qui vont conduire leurs travaux de façon secrète ou très opaque en tout cas. Et les entreprises, comme tu le disais, vont pouvoir contester des lois, des réglementations, comme ça s'est vu dans le cas des paquets de cigarettes arborant des avertissements, comme tu le disais. Et un autre exemple de ça, c'est le cas du pipeline Keystone aux États-Unis, en vertu de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis. La compagnie TransCanada réclame 15 milliards de dollars au gouvernement américain parce que son projet de pipeline entre l'Alberta et le golfe du Mexique a été annulé, rejeté. Alors, les compagnies peuvent faire des menaces et mener des procès comme ça en marge de la démocratie, comme tu le disais. Alors, c'est très inquiétant. Et effectivement, la population du Canada, il y a de grandes portions de la population qui s'opposent à ce traité. Donc, tu me disais que il y avait une réunion prévue pour jeudi. Il semble qu'elle soit encore possible. Est-ce que on peut émettre un pronostic concernant cette réunion de jeudi, selon toi?
J'ai l'impression que c'est plus possible parce que si la Wallonie maintenant faisait marche arrière, elle perdrait vraiment la face.
Oui.
Actuellement, c'est vrai qu'au niveau international des grandes forces internationales, c'est vrai qu'on reconsidère un peu les capacités de l'Union européenne à faire des traités, à avoir un même objectif et savoir collaborer. Mais par contre, au niveau de la population, la Wallonie gagne vraiment en réputation. Et voilà, on a beaucoup de soutien à ce niveau-là. Et je crois que si elle devait faire marche arrière maintenant, ce serait quand même un mauvais coup pour elle. Donc pour moi, je ne crois pas que ce sera possible. Après, Ça, c'est dans mon idéal. Dans ce genre de choses, on est parfois surpris.
Oui.
Pas forcément du bon côté. Mais...
Voilà. Alors, en tout cas, on peut dire que les parlementaires wallons ont fait preuve d'un grand courage. Ils étaient menés par le ministre-président wallon Paul Magnette. Donc, si vous voulez de plus amples infos sur le bras de fer qui s'est livré, vous pouvez chercher sur votre moteur de recherche le nom de Paul Magnette Ceuta. Vous allez tomber sur les articles les plus récents et vous allez pouvoir suivre l'actualité la plus récente. Lisa, un grand merci pour cet éclairage. Je te proposerai sans doute... Oui, vas-y.
Non, je ne sais pas si tu avais vu la réaction de la parlementaire canadienne le vendredi.
J'ai entendu dire que notre ministre du Commerce international avait été très émotive, mais je n'ai pas pu regarder sa réaction.
Elle était très émotive, qui n'était pas très professionnelle, mais aussi ce qu'elle a dit était assez choquant parce qu'elle a. Donc, elle disait oui, on remet vraiment en question l'Union européenne qui n'est pas capable de faire des traités avec des pays qui ont les mêmes valeurs, avec un pays aussi gentil que nous.
Oui.
voilà, ça c'était vraiment ses mots. Et je trouve que.
C'est un peu superficiel comme oui. argument.
Mais ce que je veux dire, c'est que la Wallonie dit non, mais elle reste ouverte à la négociation. Donc en fait, elle ne dit pas un non catégorique, elle dit non à la signature du 27 pour ouvrir le dossier et renégocier.
La sortie de la ministre Chrystia Freeland, qui est ministre du commerce international pour le Canada, manquait un peu de profondeur. On tente de dépeindre ce traité sous un jour inoffensif et c'est justement tout le contraire. Il faut que les gens soient informés avant que ce traité puisse être accepté. C'est la moindre des choses. Voilà. Un dernier mot, Lisa?
Écoute, un dernier point qui est pour moi assez important aussi, c'est que ce traité, c'est un traité qui est mixte, c'est-à-dire qui concerne le Parlement de l'Union européenne, mais aussi les parlements des États membres. Et donc, il y a deux signatures qui devraient s'affaire, soit celle du 27.
Oui.
Et ensuite, ils doivent être aussi signés par les États membres qui doivent encore renégocier quelques petits points, chacun chez eux. Est-ce que tu comprends jusqu'ici?
Oui, absolument.
Eh bien, ce traité a droit à une application provisoire. C'est-à-dire qu'après la signature qui aurait eu lieu le 27 par le Parlement européen, celui-ci pourrait être déjà actif dans les États membres avant même que les partis de droite et de gauche de chaque pays se soient mis d'accord. Donc il faut faire attention, essayer de garder son pouvoir de citoyen et puis surtout quand ce genre de traité un peu secret se met en place, se tenir au courant et soutenir la Wallonie pour le moment alors.
oui, merci. Voilà. C'est vrai, merci de soulever cette entorse à la démocratie, au processus démocratique par rapport à la signature ultérieure des différents parlements. C'est très pertinent. Et ces traités-là, ils sont très nombreux. Le CETA est le dernier en date. Alors, il faut rester vigilant, comme tu le dis. Lisa Hauquier, membre honoraire, ancienne de CILS, merci beaucoup d'avoir pris quelques instants, quelques minutes pour partager les infos sur le CETA.
Merci à toi, Alexis.
Merci, à la prochaine. C'était Lisa Hauquier, jointe un peu plus tôt aujourd'hui dans la capitale belge, Bruxelles. Il est presque 17h. On a 12 degrés au centre-ville de Victoria. Le ciel s'est un petit peu dégagé dans les dernières minutes. On aura encore quelques gouttes sans doute d'ici 19h. Après, plus tard en soirée, ce sera dégagé. C'est Alexis Gagnon au micro. Merci de nous avoir suivis dans cette heure d'information en direct ou en rediffusion à l'antenne de CILS FM 107,9. Excellente soirée à tous. À demain.